parlons du variant. Là, ce qu'on est en train d'observer, là, puis il y a quelques histoires qui nous parviennent de l'Ontario, c'est que ce sont des familles au complet qui sont frappées par le variant. Par moment, le père, la mère, les enfants, il n'y a plus assez de place dans un hôpital. Ils sont obligés de les séparer entre divers hôpitaux. Et il y a plusieurs histoires comme ça là, qui nous parviennent donc de l'Ontario qui est frappé très durement par le variant. On va aller rejoindre le docteur François Marquis, qui est le chef des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, François.
Bonjour.
Est-ce que tu observes ça, toi?
Oui, en fait, c'est arrivé. On avait eu des cas un peu exceptionnels comme ça, la première vague, mais là, ce qu'on entend vraiment, l'urgence, c'est il y a une personne qui rentre le virus ou le variant dans la famille. Avant, on en avait deux ou trois qui étaient malades, deux ou trois qui passaient à travers sans être malades. Là, c'est vraiment, le virus fait le tour de la maisonnée. J'en ai eu plusieurs comme ça. Et effectivement, ça amène de la détresse dans les parents qui se disent, hey, si on est les deux hospitalisés, qu'est-ce qui va arriver? Et présentement, moi, dans les soins intensifs, j'en ai un couple, monsieur et madame, qui sont les deux intubés. Par chance, leurs enfants sont adultes, mais des jeunes adultes. Mais c'est un problème. On risque de voir des enfants, des adolescents, dont les deux parents vont être hospitalisés. Là, c'est une réalité, ça peut arriver.
Oui, puis moi, comme parent, veux pas, tu te poses la question, OK, si jamais ça m'arrivait, est-ce que je trouverais quelqu'un qui serait prêt à prendre mes enfants? Parce que là, tu te mets à la place des parents ou des grands-parents qui pourraient vouloir s'en occuper. Tu te dis, ouais, si je le fais rentrer chez nous, il va-tu rentrer le variant avec?
Bien, le plus probable, honnêtement, c'est que la réponse est oui. Ces enfants-là ont des très, très, très hautes chances d'être porteurs, d'être contaminés, même asymptomatiques, même avec des maladies légères. Rentrer ces enfants-là dans un domicile, c'est un peu inviter le variant. Avec un peu de chance, les adultes plus âgés vont tous être vaccinés. Hein, c'est une autre bonne raison d'être vacciné. J'avais pas pensé à celle-là. Mais ça va amener un vrai problème de santé publique parce qu'il faut s'occuper de ces enfants-là. Mm. Mais ils sont potentiellement contaminés. Honnêtement, c'est un défi que j'avais pas vu venir, celle-là.
D'ailleurs, je vais m'adresser à vous dans un instant. Là, je vais vous demander, est-ce que vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé, une famille à qui c'est arrivé? Ou est-ce que vous avez un plan? Si jamais ça vous arrivait, avez-vous commencé à réfléchir à ça? On va reparler dans un instant. François, parle-nous également de la baisse de l'âge des patients qui sont admis à l'hôpital. Ça aussi, c'est frappant. Encore une fois, ça, c'est un médecin de l'Ontario qui le dit. Il y a une personne de moins de 50 ans qui meurt aux trois jours présentement en Ontario.
Ben, j'ai pas ces chiffres-là pour le Québec, mais définitivement, on voit une diminution dans la moyenne d'âge. Ça frappe mes collègues. Les gens à l'étage, là, on dit, mon Dieu, j'ai un patient hospitalisé de 30 ans, il prend pas de pilule, il y a aucun antécédent médical, il y en a un de 40 ans. On le voit. J'ai pas les chiffres exacts, mais la tendance est bien réelle. Et aux soins intensifs, je dirais, là, vu le nez, sans statistiques fiables, un 10 à 15 ans de moyenne d'âge de moins. Et on voit de plus en plus de patients dans la quarantaine et dans la cinquantaine en bonne santé.
Et ça change quoi?
Bien, ça change deux choses. Un, ça change que ces gens-là pensaient qu'ils étaient épargnés. Alors, la malheureuse réalité, c'est que non. Et après, le problème, c'est que la magie des gros chiffres fait que même s'ils ont moins de chances de se ramasser aux soins intensifs ou hospitalisés, quand ils se ramassent aux soins intensifs hospitalisés, un, sont aussi malades que les autres. Donc, c'est pas une maladie sévère, moins sévère. C'est une maladie sévère. Et un décès, ça reste un décès. Mais aussi, c'est des gens qui souvent attendent longtemps avant de venir parce qu'ils ont une grande résistance à l'intérieur de leur corps. Donc, il nous arrive des fois quasiment in extremis. Et quand tu frappes une maladie sévère, ils sont mieux équipés pour survivre. Donc, ça fait des hospitalisations plus longues, plus complexes, avec potentiellement plus d'effets à long terme, comme la faiblesse, le post-traumatic stress disorder, toutes ces choses-là.
Comment tu as dit ça, le syndrome post-traumatique?
Oui, le syndrome de stress post-traumatique, là, on s'excuse, il y a des petits
anxieux. Non, ça va, mais explique-moi.
Ben, c'est que quand on est prisonnier du COVID pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines aux soins intensifs avec des tubes partout, avec l'impression qu'on meurt pendant des jours et des jours et des jours, ça laisse un impact sur le cerveau. Et on sait que les longues hospitalisations peuvent avoir cet impact-là aux soins intensifs. C'est un phénomène qui était connu avant la COVID. Mais là, la COVID risque de nous amener beaucoup de gens en bonne santé qui n'ont jamais été malades, qui vont faire des séjours complexes aux soins intensifs où ils vont avoir très peur de mourir. Ça peut laisser sa trace sur la psychologie humaine. On le sait. Et c'est des gens, ça, qui vont peut-être avoir à dealer avec ça là, après leur hospitalisation.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire...
C'est ce qu'on voit ce qu'on voit un peu là dans les films, des cauchemars à répétition, de la panique, de l'anxiété, de la difficulté avec la mémoire, des troubles du sommeil. C'est un syndrome, hein, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de choses. Mais bref, ça peut empoisonner la vie de quelqu'un. C'est à peu près la même chose que ce que nos anciens combattants vivent quand ils reviennent du front, là, puis qu'ils restent pris avec ces images-là.
Et ça, c'est sans parler de la fragilité au niveau de la santé physique, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont rester fragiles longtemps. Est-ce qu'il y en a qui pourraient même rester fragiles pour le reste de leur vie, c'est-à-dire qu'ils sortent, ils étaient en très bonne santé, ils ont été frappés par le variant, dans certains cas, ont trop attendu, sortent de l'hôpital après le traitement. Oui, ils survivent, mais ils vont traîner une espèce de fragilité pour le reste de leur vie.
Ça va nous prendre un peu de recul, mais ce que je peux dire, c'est que là, j'ai des patients de première vague que je vois comme en clinique externe qui étaient déjà en parfaite santé puis qui sont plus capables de faire les activités qu'ils faisaient, qui s'essoufflent en montant un escalier. J'ai des gens qui étaient des athlètes là, qui couraient des longues distances, qui sont même incapables de s'approcher des temps qu'ils faisaient. Ils sont pas, hein, on s'entend, là, ils sont pas en CHSLD, ils sont pas à moitié morts, mais leur vie reste modifiée. C'est quelqu'un qui était capable de courir un triathlon qui ne peut plus faire de triathlon. Ça a un impact réel. Les gens disent, oh ben, tu sais, c'est pas si pire. Non, non, non. Quand tu es habitué de courir dans les escaliers, puis il faut que tu marches, puis que tu arrêtes dans le milieu d'un escalier, là, ça a un impact sur ta qualité de vie. Et dans le devenir, dans 10 ans ou dans 15 ans, c'est tellement trop tôt pour le dire.
Tu vois, on a texté Violaine Cousineau, l'ancienne commissaire scolaire, qui a été frappée lors de la première vague. Et elle vit ce que tu viens de nous décrire, là, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas encore remise de sa première infection. Elle s'en remet très difficilement. Elle a le souffle court. Le moindre effort physique prend énormément d'énergie. Elle est obligée de faire des siestes à répétition l'après-midi. Puis elle était en très, très grande forme. Là. C'était vraiment une sportive. Revenons aux variants, François.
Oui.
Moi, je vais te dire, depuis le début de cette pandémie, je fais attention, je prends les précautions qu'il faut, je me comporte comme un bon citoyen qui prend pas de risques inutiles. Mais pour la première fois, François, là, pour la première fois, je me sens plus vulnérable. Le maudit variant, il me joue dans la tête.
Mm-hmm. Ben, là, il faut pas oublier, faut mettre les choses en perspective. Le variant est plus contagieux. Le variant aime les gens un peu plus jeunes, mais le variant a pas appris à survivre au liquide alcoolisé. Le variant est pas capable de faire des trous dans des masques. Le variant est pas capable de se téléporter à 5 km de distance. Donc, tout ce qu'on fait qui fonctionnait pour le virus de base, 1.0, fonctionne encore super bien contre le variant, ainsi que la vaccination. Le seul problème, c'est que si on baisse notre garde, la marge d'erreur est plus faible. Donc, si avec la version 1, on aurait pu croiser quelqu'un dans une pièce sans masque, puis finalement, on est chanceux, on ne l'attrape pas, cette probabilité-là est beaucoup plus faible avec le variant. Le variant nous demande d'être plus sur nos gardes. Cela dit, si on ne fait pas d'erreur, le variant, on ne l'attrapera pas. Il n'est pas surhumain, ce variant-là. Il n'est pas devenu pire à ce niveau-là.
Très bien. François Marquis, médecin responsable des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonne chance, François. Lâche pas. Prends soin de toi.
Merci beaucoup. Bonne journée.